When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflits. Nous allons parler cette semaine d'histoire militaire, l'histoire de France. Nous commémorons le 80e anniversaire de la bataille de France de 1940, qui s'est soldée par une défaite, par l'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain, à qui le Parlement a voté les pleins pouvoirs. Et c'est au maréchal Pétain que nous allons nous intéresser cette semaine, notamment à son parcours militaire. En effet, on ne peut pas comprendre pourquoi c'est lui qui a été choisi, qui a été désigné pour prendre la suite des opérations à la suite de la défaite, si on n'a pas en arrière-plan l'ensemble de son parcours militaire, l'ensemble de cette histoire extrêmement longue, puisqu'il est resté plus de 50 ans dans l'armée active et qu'il a eu une histoire militaire extrêmement complexe. Souvent, on réduit Pétain à deux lieux, Verdun pour la victoire, Montoire pour la défaite et surtout le début de la collaboration avec l'Allemagne. C'est effectivement deux événements importants dans la vie de Philippe Pétain, mais ce n'est pas la seule chose. C'est quelqu'un qui a été professeur à l'école de guerre, qui à ce titre a formé de nombreux officiers, qui a participé, qui a dirigé la guerre du Rif en 1925, et donc qui a eu un rôle important dans cette pacification au Maroc. C'est quelqu'un qui a eu également une très grande influence militaire, stratégique, et donc une vie extrêmement riche qu'il est important de découvrir, de connaître, pour comprendre pourquoi lui a été choisi en 1940. Dans cette émission, nous parlerons donc de son parcours militaire. Nous nous arrêterons en 1939, la partie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est autre chose, ça ne concerne pas directement cette émission. Et nous allons voir comment cet homme qui est né sous le Second Empire, qui a connu deux guerres mondiales, qui a connu le début et le milieu de la colonisation, qui a monté tous les échelons militaires jusqu'à obtenir le titre de maréchal, comment cet homme s'est inséré dans l'histoire militaire française. Pour en parler, je reçois cette semaine Louis Neut. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage paru aux éditions de l'École de guerre qui s'intitule « Monsieur le Maréchal, le parcours militaire de Philippe Pétain, 1878-1939 ». L'École de guerre qui, depuis deux ans maintenant, a lancé donc une maison d'édition et une collection d'ouvrages avec des ouvrages consacrés à l'histoire militaire et à la stratégie. Et c'est donc dans ce cadre-là que paraît cet ouvrage, un ouvrage qui est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, vous montrez ce parcours qui est finalement assez peu connu, parce que on réduit Pétain à Verdun, le vainqueur de Verdun, et puis, on va dire, le perdant de Montoire, et puis la collaboration. Et ce que vous montrez, c'est effectivement un parcours militaire extrêmement riche. Peut-être, première question pour commencer, Philippe Pétain, est-ce qu'il est né dans un milieu militaire? Est-ce qu'il choisit la voie des armes un peu, je dirais pas par défaut, mais en tout cas comme une exception dans sa famille? Enfin, comment il s'inscrit dans l'environnement militaire qui est le sien?
Alors, comme vous l'avez parfaitement signalé, Philippe Pétain naît sous le Second Empire, au début du Second Empire, en 1856, dans un petit village de l'Artois. Alors, il naît dans une famille de cultivateurs. Contrairement à certaines images répandues, il ne naît pas du tout dans la misère. Hein. Son père a une maison en briques dans le petit village de Couchy-à-la-Tour. Donc, des cultivateurs qui ont un certain niveau de vie. Et on ne peut pas parler d'un milieu militaire, mais il y a des influences militaires, notamment un de ses grands-oncles qui est prêtre a servi avec la Grande Armée. Il a également un oncle qui est parti faire la guerre de Crimée. Donc il y a des influences, et surtout le déclencheur de la vocation militaire de Philippe Pétain, c'est la guerre de 1870, Alors, il n'est pas dans l'Est, il est dans l'Artois, mais les Prussiens passent tout près. Il y a une véritable prise de conscience chez Philippe Pétain, comme pour beaucoup d'autres jeunes de sa génération, ce sera aussi le cas pour Ferdinand Foch. Il y a une volonté à ce moment-là de contribuer à la revanche. Et donc c'est vraiment cette guerre de 1870 et la difficulté matérielle de la vie à la ferme qui vont naturellement, en plus des récits du grand-oncle, qui vont le pousser naturellement vers l'institution militaire. Alors il y a un point de détail sur cette vie à la ferme. Pétain a perdu sa mère à l'âge de 3 ans, son père s'est remarié, et les enfants du deuxième lit du père de Philippe Pétain sont mieux lotis que les enfants du premier lit, dont le maréchal. Et par conséquent, le fait que Pétain soit un enfant malvenu dans sa propre famille, ça va le pousser à chercher une indépendance assez rapidement. Et de ce point de vue, l'armée, en plus de correspondre à une véritable vocation, va lui apporter une indépendance matérielle qu'il cherche. Donc il y a bien ces deux volets qui comptent.
Et ce qui est intéressant, vous l'avez dit, c'est qu'il est marqué, comme toute sa génération, par la défaite de 1870. Il fait partie de cette génération de Français qui a connu les trois guerres avec l'Allemagne, donc la guerre contre la Prusse, et puis les deux guerres mondiales. Génération assez unique, effectivement. Et puis, lorsqu'il est né, il y a encore la nostalgie, l'histoire du Second Empire, de l'époque napoléonienne. Donc il est aussi dans une histoire militaire politique très particulière.
Oui, bien sûr. La date de sa naissance, 1856, c'est un parallèle que l'on fait parfois, à tort ou à raison, mais c'est plus proche de Waterloo que de 1914. Ça donne bien un aperçu de l'ancrage de Philippe Pétain dans le siècle des deux Napoléons, très clairement. Et bien qu'il est adolescent au moment de la défaite de 1870, donc suffisamment âgé pour véritablement prendre conscience du drame national et pour sentir en lui naître cette vocation militaire.
Alors il passe par l'école de Saint-Cyr,
Oui.
et donc il se destine ensuite à l'armée de terre et à l'infanterie. Est-ce que ça contribuait aussi évidemment à sa formation? Et on le voit après, lorsqu'il a été professeur à l'école de guerre, il a été professeur, enfin, notamment de stratégie d'infanterie.
Oui, alors Pétain, évidemment, ça compte pour beaucoup. Alors, il a préparé le concours de Saint-Cyr chez les Jésuites. Ensuite, à Saint-Cyr, il intègre avec un rang médiocre, sort dans un rang honorable, donc dans l'infanterie. C'est un homme d'études, Pétain. Et en fait, cette tendance va se confirmer au fur et à mesure de sa première partie de carrière. Ce n'est pas un intellectuel, il n'écrit pas, son Pétain aura peu ou pas du tout écrit, mais c'est un homme d'études, c'est un homme qui aime lire, c'est un homme qui aime se cultiver à tout point de vue, et effectivement, Saint-Cyr lui donne plus particulièrement après la préparation du concours chez les Jésuites, Saint-Cyr va confirmer cette vocation, ce goût pour l'étude qui ne se démentira pas par la suite.
D'ailleurs, il est de la même promotion que Charles de Foucault, qui a eu une vie un peu, enfin, différente, particulière, mais c'est intéressant aussi de replacer les hommes dans leur époque. Il ne participe pas aux guerres coloniales, alors qu'on est dans cette grande effervescence coloniale, lui n'en prend pas part.
Oui, c'est le comme alors comme
Militaire.
d'autres militaires, comme beaucoup d'officiers, comme la majorité d'ailleurs des officiers de cette génération, il reste concentré sur la revanche. Donc il opte dès la sortie de Saint-Cyr pour les troupes métropolitaines et donc vraiment une carrière que aujourd'hui on regarde d'un œil un peu pas un œil un peu compatissant, parce que c'est l'enchaînement des garnisons sur le sol métropolitain, donc sans aventure, sans ce qu'on appellerait aujourd'hui des opérations extérieures. Mais pour de nombreux officiers de cette génération, la vocation première, c'est bien de préparer, de forger l'outil de la revanche, et avec cet outil, de conduire la guerre de revanche contre l'ennemi allemand.
C'est vrai qu'il y aurait eu, ben d'ailleurs, il a ensuite remplacé Lyautey. Lui, enfin Lyautey a pris une autre direction en étant dans la guerre coloniale, en étant présent au Maroc. Donc on voit aussi des profils de militaires complètement différents.
Oui, tout à fait. Dans cette génération dans cette génération d'officiers donc qui arriveront au plus haut poste pour la Première Guerre mondiale, on a vraiment la tradition des coloniaux. On retrouve le Gallieni, Joffre, Lyautey, mais on a aussi la tradition des métropolitains, parmi lesquels on retrouve bien sûr Pétain, mais aussi Foch, le général, le futur général de Gaulle. Alors c'est une autre génération, mais quand il sort de Saint-Cyr, il choisit lui aussi les troupes métropolitaines, par exemple. Et c'est donc jusqu'à la génération du dessous, avant la guerre de 1914, on a vraiment un grand nombre d'officiers qui choisissent délibérément la ville de garnison en métropole pour préparer la guerre de la revanche contre l'ennemi allemand.
Alors cette guerre, elle arrive, finit par arriver en 1914. Pétain est un peu à la fin de sa carrière. Finalement, cette guerre, elle parachève.
Ah oui, il a préparé sa retraite. Il a déjà acheté sa petite maison avec son jardin à Saint-Omer. Il se prépare à prendre sa retraite. Il commande une brigade, donc une fonction plutôt dévolue un général de brigade, mais il la commande par intérim lorsque la guerre se déclenche. Et très rapidement, il va franchir les étapes et progresser en grade très rapidement.
Alors on va revenir sur la Première Guerre mondiale tout à l'heure. D'abord, intéressons-nous à cette avant-guerre, même si évidemment à l'époque on ne sait pas que c'est l'avant-guerre, mais il a un rôle important puisqu'il est professeur à l'école de guerre, donc il forme les futurs officiers, et c'est là où c'est intéressant. Également par rapport à votre ouvrage, c'est que vous avez dit que c'est un homme d'études, donc là il met en pratique finalement ce qu'il a étudié, et en tant que professeur, il contribue d'abord à définir une doctrine, mais également à la diffuser parmi l'ensemble du corps des officiers. Donc son rôle, même si un professeur ne fait pas tout, mais son rôle est quand même important dans le développement, la pensée stratégique militaire française.
Oui, alors la pensée stratégique, du moins la pensée tactique, ça c'est certain, car Pétain, et c'est une constante que l'on retrouvera également dans l'entre-deux-guerres, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, Pétain est un homme de conviction. Donc c'est des convictions qui sont étayées par des études, et ces études, et l'étude également des conflits extérieurs à l'époque, donc Afrique du Sud, Mandchourie, conduit Pétain à l'idée qu'on lui a souvent prêté ces mots. Donc, faute de les avoir prononcés, en tout cas, il les porte, le feu tue. C'est-à-dire que Pétain est vraiment l'homme, est vraiment la référence qui porte l'idée selon laquelle il faut absolument combiner le mouvement et le feu pour appliquer un maximum de puissance de feu sur l'ennemi. Et à l'époque, ce n'est pas si évident. Pétain n'est pas seul. Beaucoup d'autres professeurs ou officiers supérieurs insiste sur, par exemple, la coordination entre l'infanterie et l'artillerie. Mais Pétain est vraiment le seul à s'opposer à une logique qui, parfois, va conférer à la mystique de l'élan offensif, donc le seul mouvement qui emporte la décision. Pétain, c'est vraiment, déjà, dès ses années d'enseignement, la prudence, la froideur pragmatique et la combinaison du mouvement et du feu pour vraiment apporter un maximum de puissance de feu face à l'objectif, et non pas vouloir l'emporter absolument uniquement par le seul élan. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a là un homme qui réfléchit, qui pense, qui forme, et puis qui, à un moment donné, est confronté à l'application de ses doctrines directement pendant la Première Guerre mondiale, puisque là, il est général, en opération, et donc il peut appliquer ce qu'il a enseigné.
Exactement. C'est comme je le précise dans mon livre, il n'est pas le seul à avoir eu raison. Mais c'est lui qui a porté ses idées et ses notions tactiques avec le plus d'efficacité d'un point de vue pédagogique, didactique, avec le plus de talent. Et il se trouve que la guerre va lui donner l'opportunité de mettre en application ses conceptions. Et en plus d'avoir des idées, comme je vous l'ai dit, c'est un homme de conviction. C'est également un homme qui a un don pour le commandement. C'est un homme qui a un sens supérieur du commandement. Et donc la combinaison de ce don pour le commandement et de la clarté et de la cohérence et de la justesse de ses conceptions tactiques vont faire en sorte qu'effectivement, dès les premières semaines de guerre, il va être révélé, et en fait, surtout par contraste avec bon nombre de généraux qui vont rapidement être limogés, le fameux limogeage de Joffre, en fait, Pétain va très vite, comme certains autres de ses camarades, on peut aussi parler de Fayolle, va être révélé par les premières semaines de guerre, notamment parce qu'il a raison, et surtout parce qu'il est bon, quand beaucoup d'autres sont mauvais et complètement dépassés par le rythme des opérations et par l'ampleur des pertes en fantassins qui sont extrêmement prononcées sur les premiers mois de guerre.
Alors c'est vrai que l'épreuve du feu révèle les hommes, et là les faiblesses, enfin immédiatement vues. Donc cet homme qui devait prendre sa retraite poursuit, et il était loin de se douter qu'il allait poursuivre encore plusieurs décennies. Au début de la guerre, quel est son rôle, quelle est sa fonction, qu'est-ce qu'on lui confie comme opération?
Alors au début de la guerre, il part au combat avec sa brigade d'infanterie. Très vite, au sein de l'armée Lanrosac, la 5e, il est engagé en Belgique. C'est la bataille des frontières. Et rapidement, sa brigade est engagée dans des combats d'arrière-garde pour couvrir en fait la retraite française suite au déboire de la bataille des frontières. Donc, il participe au coup d'arrêt de la bataille de ce qu'on a retenu comme la bataille de Guise, mais qui est en fait un des premiers moments de l'ensemble des opérations qui constituent la bataille de la Marne. Donc tout de suite, Pétain est engagé en combat retardateur, si on peut dire. Et ensuite, il participe au mouvement contre-offensif de la Marne à partir du début septembre 1914. Et ce qui fait que après ces combats où il obtient des résultats tactiques significatifs, il est nommé général de division dès la fin de la bataille de la Marne, dès septembre 1914.
Déjà, ensuite, il continue. Tout le monde retient Verdun, mais enfin, Verdun n'arrive qu'après. Quelle est ensuite la suite de son parcours dans cette armée française qui se défend?
Alors, rapidement, après la bataille de la Marne, c'est la course à la mer. Pétain, général de division, en septembre. On lui confie un corps d'armée, le 33e, en octobre 1914, ce qui fait que ses amis lui font la remarque, on n'a même pas le temps de vous féliciter pour un grade que vous avez déjà pris le grade d'après. Et début 1915, il est définitivement général de division. Il n'est plus général de division à titre temporaire. Il commande son corps d'armée et il participe à ce titre aux batailles de grignotage de Joffre de 1915 en Artois et en Champagne, où là encore Pétain n'emporte pas la décision, mais il comprend avant tout le monde le caractère très matériel, industriel de cette guerre, et les faiblesses de la France, les faiblesses économiques et stratégiques de la France, notamment sur ce point. En fait, Pétain est celui qui comprend le mieux cette guerre avant les autres. Comme pour le feutu, il n'est pas le seul, mais c'est lui qui l'exprime le mieux, et c'est peut-être lui qui comprend le plus vite la dimension nouvelle industrielle de cette guerre. Donc il obtient des résultats, tout en sachant que la percée, notamment en Artois, au début de l'année, puis ensuite plus tard en Champagne, la percée est impossible, faute de pouvoir concentrer suffisamment de réserves d'artillerie et de logistique au point où justement il faudrait exploiter la percée. Ça, l'armée française n'en est pas capable encore, et ça, Pétain le comprend, et du coup, il commence un petit peu à agacer, mais vu qu'il a des résultats, il commence à se faire un nom au sein de l'armée, et il accède au commandement de la 2e armée dès la moitié de l'année 1915.
Alors, petit point de précision, enfin, pour ceux qui sont moins familiers à des termes, des aspects militaires, un corps d'armée, c'est combien, alors ça peut évoluer, mais c'est combien d'hommes à peu près, et qu'est-ce que ça représente? Alors, qu'est-ce que ça représente dans la gestion militaire, enfin, en termes de responsabilité, ou c'est-à-dire est-ce qu'il a une liberté opérationnelle? Est-ce que il est dépendant directement de Joffre, ou est-ce que il a une certaine liberté d'action?
Alors, pour resituer de la façon la plus simple possible, l'armée française qui combat sur le front du Nord et du Nord-Est, c'est une dizaine de grands ensembles autonomes qu'on appelle les armées. Ces armées sont elles-mêmes divisées en corps d'armée, et une armée compte, dans l'armée de Pétain, la 10e en Artois en 1915, il y a deux corps d'armée, si je ne m'abuse, et chaque corps d'armée comprend plusieurs divisions, un général de corps d'armée, c'est plusieurs dizaines de milliers de combattants. Il combat aux ordres de son général d'armée, et les généraux d'armée, eux, rendent compte donc au grand quartier général. Et vu la masse de combattants qui va très vite être engagée, Joffre va créer, dès le début de la guerre, des groupes d'armées, de façon à donner un peu d'autonomie aux décideurs militaires qui sont confrontés à un espace territorial absolument gigantesque qui court de la mer du Nord à la Suisse. Donc on va retrouver ensuite trois grands groupes d'armées du Nord, du centre et de l'est. Voilà. Donc Pétain, quand il est commandant de corps d'armée, il commande quelques dizaines de milliers d'hommes au sein d'une armée autonome, et très rapidement, vu que c'est quelqu'un qui est sûr de la valeur, de sa valeur intrinsèque de chef, de sa valeur de chef au combat, très rapidement, il va se poser un petit peu par rapport à son général d'armée, général de Mauduit. Il va lui faire comprendre, de façon plus ou moins à peine cachée, qu'il pourrait faire mieux que lui s'il était à sa place. Et très rapidement, c'est ce qui va arriver, puisque Pétain se retrouve général d'armée. Donc là, un de ces fameux 10 grands ensembles qui constituent la totalité de l'armée française, dès l'été 1915, il commande la deuxième armée.
Alors on a une manière de faire la guerre qui est très différente d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'aviation, enfin très peu, l'aviation existe, mais elle est moins stratégique. Donc c'est d'un côté les hommes et de l'autre préparer les attaques. Comment est-ce que Pétain justement actionne les deux entre l'infanterie et l'artillerie?
Alors Pétain, là où il se différencie, si vous voulez, tout le monde combat en interarmes, c'est-à-dire que devant les pertes, après les pertes effroyables des premières semaines de guerre, on fait un énorme effort, l'ensemble de l'armée française fait un énorme effort pour renforcer la coordination entre l'infanterie et l'artillerie, et en liaison avec l'aviation, qui au début de la guerre, il y a la dimension chasse et bombardement qui va arriver plus tard dans le conflit. Au début de la guerre, l'avion est surtout utilisé comme moyen d'observation, et sur ce point précis, Pétain, dès 1914, a vu juste sur la place prépondérante que l'aviation va être amenée à jouer, pardon. Et Pétain fait l'effort pour sa division, puis pour son corps d'armée, sur une coordination extrêmement renforcée, et surtout là où il se différencie de ses pairs, c'est que Pétain, dès cette époque, n'hésite pas à prendre des libertés par rapport aux ordres qu'il reçoit. C'est-à-dire quand il reçoit, notamment en Artois, des objectifs d'attaque, il n'hésite pas à faire donner des préparations d'artillerie, à faire sortir son infanterie, et ensuite à rappeler son infanterie une fois qu'elle est sortie, pour être sûr d'avoir un minimum de casse. Donc on est déjà sur un homme qui affiche une liberté dans son commandement qui paraît extraordinaire quand on connaît la dureté de Joffre et la dureté de la discipline qui règne dans l'armée française à cette époque.
Alors on arrive à Verdun, et d'ailleurs souvent Pétain se réduit à ces deux villes, Verdun et Vichy, c'est un peu les deux facettes de sa vie, mais Verdun, il est l'un des vainqueurs de Verdun, parce qu'il y a eu quatre généraux qui se sont succédés à la direction des opérations à Verdun, et Pétain y a exercé quelques semaines. Qu'est-ce qu'il apporte pendant cette bataille, et en quoi son rôle est important dans la victoire finale de la bataille de Verdun?
Alors Pétain, donc à la tête de sa deuxième armée, rejoint le front de Verdun après le déclenchement de l'offensive allemande du 21 février. D'ailleurs, une offensive qui a été en partie une surprise, parce que Joffre avait quand même anticipé en partie, il avait envoyé un corps d'armée en renfort. Ce que Pétain apporte, c'est la confiance. On parle souvent de l'importance de la confiance, par exemple, dans le domaine financier. Eh bien là, Pétain apporte son charisme, sa confiance et sa volonté tout de suite de s'imposer, d'imposer son commandement, son style, à la fois extrêmement dur, organisé et méthodique. Et cette confiance est parfaitement orchestrée et mise en œuvre par l'état-major de la 2e armée, qui est un état-major absolument remarquable. J'en parle assez rapidement dans mon ouvrage, mais mon livre se veut aussi un hommage à tous ces officiers d'état-major finalement assez méconnus, mais qui ont été les véritables fer de lance de cette reprise en main du secteur de Verdun. Et donc on est vraiment sur Pétain qui apporte la confiance, les grandes directives, les grands axes, une parfaite mise en œuvre, une parfaite orchestration de cette volonté tactique de Pétain par un état-major extrêmement compétent, des noms comme Barescu, Zeller, Cointet, qui sonnent peut-être de façon assez familière à nos oreilles, puisque ce sont des dynasties militaires, on en retrouve aussi dans nos générations. Et là, on est vraiment sur des hommes qui vivent de façon absolument monacale, qui sont dévoués corps et âme au succès de l'ensemble que constitue l'armée. Et Pétain aura toujours cette chance, en 14-18 et après, d'être servi par des hommes absolument remarquables. Donc voilà ce qu'apporte Pétain à Verdun, la confiance qui permet de rétablir, confiance, rétablissement, et un effort sur la logistique qui est en fait la supériorité du regard de Pétain sur cette bataille. C'est tout de suite la compréhension qu'il faut relever les divisions d'infanterie extrêmement rapidement, alors, tous les deux ou trois jours. En deux ou trois jours, une division fond, donc Pétain comprend tout de suite la primauté à accorder à la relève des divisions d'infanterie. Et il va relever beaucoup plus vite que les Allemands, qui eux sont engagés en secteur de façon beaucoup plus longue. Et très rapidement, la bataille d'usure que les Allemands voulaient déclencher contre les Français va se retourner contre eux, puisqu'ils vont s'user autant que les Français. Et donc Pétain comprend ça, et donc voilà, c'est le rétablissement. Il ramène la confiance, et à ce titre, il peut vraiment être considéré comme le sauveur de Verdun. À défaut d'être le vainqueur de Verdun, qui Palme qui échoue plutôt à Nivelles, on peut véritablement parler de sauveur de Verdun sans exagération. Pardon.
Alors en 1918, c'est la victoire finale, et Pétain reçoit ce titre honorifique de maréchal de France.
Dignité
de maréchal de France. Et pour quelqu'un qui devait prendre sa retraite en 1914, c'est évidemment un parcours important, et ça montre aussi qu'il a été reconnu pour sa valeur et pour ce qu'il a pu apporter. Et là aussi, il n'arrête pas sa carrière, puisqu'il a une vie très active pendant l'entre-deux-guerres. On va y revenir. Il a été ministre de la guerre en 1934. Mais avant ça, il y a cette guerre du Rif. Alors le Rif, nous sommes au Maroc. Donc là, on revient à la guerre coloniale. Et Pétain, qui n'a jamais été dans la guerre coloniale, y est finalement projeté. Et il y a cette confrontation, mais en tout cas cette rencontre avec Lyautey, deux hommes extrêmement différents de tradition, d'histoire et puis également de caractère. Et Pétain contribue à la victoire en 1925 dans la guerre du Rif. Et ce que vous montrez qui est intéressant, c'est c'est une guerre qui est dissymétrique, et on a malgré tout une victoire de l'armée française.
Oui, alors pour revenir à la genèse du conflit, en 1924, c'est la victoire du cartel des gauches, donc qui coïncide avec la rébellion déclenchée par Abdelkrim. Et très rapidement, le pouvoir du cartel des gauches doute de la capacité de Lyautey à rétablir la situation. Il faut savoir que Lyautey porte ce protectorat depuis la veille de la Première Guerre mondiale. Il a réussi à garder le Maroc à la France malgré beaucoup d'agitation, avec des effectifs extrêmement réduits. Et le pouvoir politique a une impression de fatigue de Lyautey. Il doute vraiment de la capacité de Lyautey à rétablir la situation. Donc c'est très problématique, puisqu'on sait gré à Lyautey d'avoir construit ce Maroc, ce protectorat, et on cherche à l'évincer pour reprendre le contrôle. Et force est de constater que bon, les volontaires ne se bousculent pas. C'est une guerre en plus assez incertaine. Il y a que des coups à prendre. On est occupé sur le Rhin au même moment, parce qu'il faut se désengager de la Ruhr. Donc il est très difficile de trouver un remplaçant pour Lyautey. Et finalement, vu que c'est Painlevé qui est à ce moment-là président du Conseil et qui a une histoire commune avec Pétain depuis la Première Guerre mondiale, qui fait appel à Pétain, et Pétain, à ce moment, on va retrouver des ressorts qui vont rejouer en 1934, puis ensuite en 1940. Pétain, dès cette époque, apprécie d'être considéré comme un recours. Au-delà du fait que l'homme aime passionnément servir, c'est une vie de service, Pétain, comme vous l'avez précisé en introduction, plus de 50 ans de service actif, mais il y a la volonté passionnée de servir, et il y a l'orgueil du vrai modeste qui est flatté d'être appelé, et du coup de pouvoir se poser en recours. Donc effectivement, il est obligé d'être assez inélégant avec Lyautey, puisque de toute façon, effectivement, il faut que quand l'un arrive, l'autre s'en aille. Et ensuite, il va effectivement conduire cette guerre avec beaucoup d'efficacité, avec des effectifs, du matériel, de la méthode, et remporter par la même la seule vraie victoire connue à ce jour de l'armée française contre un ennemi, oui, qu'on peut dire à la fois dissymétrique et asymétrique, mais en tout cas, c'est un exemple unique dans l'histoire de l'armée française, la victoire d'une armée conventionnelle contre un ennemi dissymétrique à l'étranger.
Et alors, comment il s'y prend pour gagner, justement, en plus, sur un terrain qui est compliqué, c'est terrain montagneux, donc faire circuler l'artillerie, c'est complexe, les hommes aussi, il y a le problème des embuscades, évidemment, donc c'est un terrain complètement différent de ce qu'il a pu connaître pendant la Première Guerre mondiale.
Alors, il y a plusieurs niveaux pour comprendre l'action de Pétain au Maroc. Là, on peut vraiment s'élever au niveau stratégique. On ne peut pas encore parler d'opératif à l'époque, mais d'un point de vue stratégique, Pétain comprend qu'on ne pourra pas gagner cette guerre sans les Espagnols. Il faut créer une logique d'étau entre les Espagnols au nord et les Français au sud. Et donc, à ce moment-là, il noue des liens avec le général San Giorgio et avec les militaires espagnols, qui seront précieux par la suite et qui expliqueront en partie le fait qu'on fasse appel à lui pour être ambassadeur auprès de Franco en 1939. Donc il comprend que cette guerre, il faut la mener avec l'Espagnol, avec les Espagnols que n'aime pas Lyoté, mais qui pour Pétain doivent être un allié de circonstance, pour créer cet étau à l'échelle du théâtre. Ensuite, d'un point de vue tactique, Pétain a l'énorme avantage sur Lyoté d'être vice-président du Conseil supérieur de la guerre. À cette époque, il est inspecteur général de l'armée, et donc il a la main sur l'armée, sur l'état-major de l'armée. Donc quand Pétain demande des renforts, c'est beaucoup plus facile que quand on s'appelle Lyoté, qu'on a énervé le Parlement, qu'on a fait fondre un petit peu les renforts envoyés au compte-gouttes. Pétain, général républicain, parfaitement soutenu par Painlevé et par le gouvernement du cartel des gauches, peut demander tous les moyens qu'il veut, donc on va engager jusqu'à 143 000 hommes. Pétain demande des chars, des avions, il a tous les moyens qu'il lui faut. Ensuite, il reprend en main le commandement, il sectorise, toujours cette obsession de la sectorisation chez Pétain. Et là, en coordination avec l'allié espagnol, on est véritablement dans une logique de rouleau compresseur. C'est vraiment l'image qui vient en tête. Et rouleau compresseur, donc avec plusieurs groupes tactiques qui sont commandés, encore une fois, par des subordonnés exceptionnels. Là, on a quand même des futurs grands noms de l'armée française qui mènent un combat extrêmement efficace, interarmes, avec beaucoup on dit une débauche de moyens, mais force est de constater que ça marche, que c'est efficace.
Est-ce que dans la manière de conduire la guerre en 1925, il y a une différence notable avec la manière dont elle est conduite en 1918? Est-ce que on voit déjà apparaître des évolutions techniques, stratégiques, enfin, hormis le fait que l'ennemi est différent, que le terrain est différent? Est-ce qu'il y a déjà quelques évolutions, ou est-ce que c'est à peu près la même manière de conduire la guerre que pendant la Première Guerre mondiale?
Alors, ce n'est pas la même manière de conduire la guerre, surtout la guerre de 1918, qui, du point de vue français, on est arrivé à de très beaux aboutissements du point de vue de la doctrine, du matériel, de l'emploi. Dès septembre 1918, on engage par exemple les chars Renault FT groupés. La coordination interarmes est extrêmement resserrée. On utilise la division aérienne comme arme tactique. Donc vraiment, 1918, d'un point de vue français, c'est là tout le paradoxe de l'histoire, l'ironie malheureuse de l'histoire. Les prémices des succès allemands de 1940 sont déjà en germe dans la façon dont l'armée française combat en 1918. Le Maroc, c'est très différent, puisque le terrain oblige, le terrain contraint à engager surtout des unités d'infanterie ou de cavalerie qui sont là soutenues par des chars. On ne peut pas employer les chars de façon massive dans un terrain très accidenté. Il faut se mettre dans les conditions de la maintenance de l'époque. Vous imaginez bien que entretenir des chars dans un terrain pareil avec les moyens des années 1920, c'est extrêmement compliqué.
Il y a la poussière, il y a le ravitaillement aussi en essence.
La logistique, le service de santé, tout est rendu beaucoup plus compliqué. Donc les gens combattent dans des compartiments de terrain extrêmement resserrés, isolés les uns des autres, à la différence du front occidental de 1918. Il n'y a pas d'artillerie en face. L'aviation française domine complètement le ciel et apporte une énorme plus-value tactique en termes de renseignement et d'attaque au sol pendant cette guerre du Rif. On a jusqu'à plus d'une vingtaine d'escadrilles engagées. Et là, le côté véritablement le plus révolutionnaire, si je puis dire, j'aime pas trop ce terme, plutôt novateur d'un point de vue tactique, c'est l'utilisation de l'aviation d'assaut. Là, il y a vraiment une très belle réussite contre un ennemi, certes dépourvu d'aviation, mais là, en termes de combinaison des effets entre l'arme aérienne et les troupes au sol, on atteint un niveau inégalé jusqu'alors, et cet enseignement particulièrement riche va ensuite se perdre en quelques années, ce qui fait qu'en 1940, c'est les Allemands qui mettront en œuvre ces procédés, alors que nous, nous les avions déjà expérimentés avec succès au Maroc en 1925-1926.
Alors la guerre du Rif, donc une victoire, et vous l'avez bien dit, Pétain évidemment est honoré d'être reconnu. Si on regarde les autres maréchaux, grands généraux de la Première Guerre mondiale, soit ils décèdent, soit ils partent à la retraite. Il est finalement le seul qui est continué. Bon, il y a Castelnau, mais qui a une autre carrière plutôt politique. Mais Pétain, c'est institutionnalisé. Il est reconnu par le corps politique. D'où le fait d'ailleurs qu'il soit nommé ministre de la guerre. Et finalement, on ne comprend pas pourquoi il a été vu comme un recours en 1939 si on n'a pas à l'esprit le fait que pendant les 20 années qui ont précédé, il a été vu comme un recours à plusieurs reprises. La guerre du Rif, vous l'avez dit, quand il est nommé ministre de la guerre dans un climat en plus très compliqué, 1934, affrontements sociaux, politiques violents en France. Et donc il a des responsabilités politiques majeures et finalement être ministre de la guerre, c'est pour lui entrer directement dans l'arène politique, même s'il n'est pas affilié à un parti directement, il devient un homme politique.
Oui, malgré ce qu'il dit au président Doumergue, donc chargé de constituer le gouvernement d'union nationale, je ne veux pas faire de politique. Il se retrouve en politique. Alors pour revenir sur ce que vous disiez, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Pétain, dans l'entre-deux-guerres, il fait de plus en plus l'unanimité. Donc, comme vous l'avez dit, les autres maréchaux ensuite vont partir les uns après les autres, Foch en 29, Joffre en 31. Donc, en termes d'influence au sein du Conseil supérieur de la guerre, Pétain va asseoir de plus en plus sa prépondérance. Il fait l'unanimité également au sein de l'opinion. Dès 1918, dès la victoire, le général qui bénéficie le plus des faveurs de l'opinion publique, c'est Pétain. C'est Pétain. Pétain n'a pas gagné de bataille à proprement parler, mais en termes de communication, il voit juste, il est particulièrement bien traité par les médias, le petit journal, l'illustration, ce qui fait que il a la faveur de l'opinion publique. Pendant l'entre-deux-guerres se constitue le monde combattant, qui est très important. Pratiquement tous les députés sont des anciens combattants, ça représente une masse électorale absolument énorme dans un régime où la conquête des voix est un enjeu majeur. Donc en fait, Pétain fait l'unanimité et devient absolument incontournable, et il va conforter par là même sa réputation de général républicain. Donc il n'est pas suspect d'être factieux, ce n'est pas un maurassien par exemple, ce n'est pas un maurassien à l'époque Pétain comme le sont pourtant beaucoup d'autres officiers de sa génération ou de celle du dessus d'ailleurs comme Charles de Gaulle. Pétain passe pour quelqu'un de modéré, il est proche de beaucoup d'hommes politiques associés à la gauche, au centre-gauche, hein, au sein du Parti radical socialiste, et du coup, effectivement, il devient incontournable, et il se retrouve en politique en 1934, 78 ans, même, ministre de la guerre, et encore une fois, parce que, comme vous l'avez bien rappelé, il y a la fierté. Il y a la fierté, il y a la satisfaction à être considéré comme un recours et à pouvoir de nouveau, encore une fois, servir avec tous les honneurs matériels que ça implique. Il ne faut jamais oublier, à mon sens, cet aspect qui n'est d'ailleurs absolument pas condamnable. Quand on a grandi dans le froid, une relative pauvreté, on est toujours content de pouvoir bénéficier des ordres de la République, et surtout quand on bénéficie d'un état de santé exceptionnel, ce qui est le cas de Philippe Pétain.
Et puis, étant ministre de la guerre, il découvre donc un autre milieu, il croise aussi d'autres personnes, par exemple Laval, Pierre Laval, évidemment, il se fait aussi un réseau de relations qui lui a été utile 4 ou 5 ans plus tard, quand il est devenu chef du gouvernement et qu'il a fallu cette fois-ci œuvrer au niveau militaire. Alors, l'émission arrivant à son terme, on va aller en 1939. On ne va pas s'intéresser enfin, aux raisons pour lesquelles il a été appelé, c'est un autre sujet. Mais si on reste uniquement sur la question militaire, vous avez bien expliqué que pendant la Première Guerre mondiale, il a compris cette guerre et il a été assez novateur sur un grand nombre de points. Est-ce qu'il a compris la guerre de 1939 ? Les évolutions technologiques qu'il y avait, le rôle développé de l'aviation, le rôle des chars, où est-ce qu'il est resté sur une conception de 1918 et donc avec une guerre de retard?
Je ne pense pas qu'on puisse parler de guerre de retard puisque le maréchal Pétain voit juste sur un certain nombre de sujets, pas sur tous. Le problème, c'est que foncièrement, c'est un homme du 19e siècle, c'est un homme qui vieillit. On parle quand même d'un homme qui arrive en 1940, j'ai 84 ans. Il faut se figurer ce que c'est qu'un homme de 84 ans à cette époque. La vieillesse qui est bien une forme de naufrage dans le cas de Philippe Pétain, cette formule a fait l'objet de nombreux débats, mais ça reste une réalité. Pétain n'est pas complètement déconnecté des nouvelles réalités militaires qui vont nous être extrêmement défavorables en 1940. Mais le problème, c'est que, c'est ce que j'essaie de porter comme message, c'est qu'il a laissé, se développer, notamment durant l'entre-deux-guerres, un esprit défensif, finalement une forme de pusillanimité militaire qui s'est développée pendant tout le temps où il était vice-président du Conseil supérieur de la guerre. Il a, bon, après on pourrait y revenir en détail, mais il a accompagné des compromis, il a joué un rôle d'arbitrage, mais sans véritablement trancher, et on peut regretter à l'aune de son parcours personnel, que l'homme de conviction extrêmement forte qu'il était avant la Première Guerre mondiale, voit en quelque sorte cette capacité de conviction décroître durant l'entre-deux-guerres, en tout cas d'un point de vue militaire. C'est-à-dire que dans la décennie 1930, il y a des convictions politiques très fortes qui se développent. En revanche, d'un point de vue militaire, il est évident qu'il a laissé se développer un état d'esprit immobiliste, qui est une des raisons de notre défaite de 1940.
Alors je renvoie justement à ce sujet à nos éditeurs à une émission avec Dominique Lormier consacrée à la défaite de 1940, dans laquelle il montre très bien que cette défaite n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle est préparée en quelque sorte par les 20 années qui ont précédé et par des renoncements militaires, des baisses de budget ou un manque d'évaluation stratégique. Mais effectivement, le rôle de Pétain, enfin le Pétain 1939, est aussi tributaire, et vous l'avez, enfin, vous montrez dans l'ouvrage, de ses hautes fonctions auparavant, par exemple en 1934, ministre de la guerre, même si un ministre de la Troisième République a des pouvoirs assez limités et que le gouvernement change régulièrement, il aurait pu préparer une revanche, enfin pas une revanche, mais plutôt une attaque allemande, où eux, justement, étaient dans un esprit revanchard, avec un Hitler au pouvoir depuis un an, qui avait des plans très clairs sur une opération stratégique à mener en Europe.
Oui, alors le problème du Pétain des années 1930, c'est que la prudence qui est vraiment un des fils directeurs majeurs de sa vie, la prudence va vraiment prendre le pas sur les convictions. Et comme je l'explique dans mon livre, il ne fait pas vraiment de choix. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans une situation dont on sait qu'elle est problématique, c'est-à-dire l'état de la défense du pays. Comme l'a très bien dit le général Weygand, à cette époque, le pays croira qu'il est défendu, il ne le sera pas. Ça, Pétain le sait très bien. Pétain a gardé son état-major particulier, il est parfaitement connecté aux réalités de l'armée, il sait que la situation est grave, il sait que l'Allemagne réarme, il est conscient du danger. Mais il ne s'oppose pas vraiment, il ne porte pas de conviction sur le plan politique, il ne s'accroche pas, c'est-à-dire quand on lui donne l'opportunité de rester comme ministre de la guerre suite à la chute du cabinet d'Oumergue, il refuse. On aurait pu penser qu'il aurait pu jouer un peu le rôle qu'avait joué Georges Lec pour la marine, vous savez, cette continuité d'un ministre qu'on le retrouve dans tous les cabinets successifs et qui porte sur le long terme des véritables projets d'un point de vue des programmes d'armement, par exemple, ou de lutte pour le maintien ou la sanctuarisation de certains budgets. Donc en fait, Pétain ne mène pas de combat. Il ne s'oppose pas, il ne démissionne pas, mais il ne s'accroche pas non plus pour essayer de porter sur le temps long un véritable projet novateur, que ce soit en termes d'organisation, de doctrine, de programme d'armement. Et donc, on peut vraiment, je pense qu'on peut affirmer que les convictions ne sont plus là, la volonté de se battre pour les bonnes choses n'est plus vraiment là. Et donc, à ce titre, on peut lui accorder une part de responsabilité dans le désastre national qui va suivre, c'est évident.
Et effectivement, comme vous l'expliquez, on comprend rien aussi, enfin, si on n'a pas son âge en rapport, évidemment, quelqu'un de 80 ans est moins actif et moins dynamique qu'une personne de 60, comme il était au moment de la Première Guerre mondiale. Alors, dernière question avant de conclure cette émission. Sur la question stratégique aussi, est-ce que la manière de conduire la guerre aussi face à l'Allemagne, est-ce que Pétain voit des alliances possibles avec l'Angleterre, avec les États-Unis, ou est-ce que c'est quelque chose qui lui paraît impossible et donc finalement ça justifie l'armistice à venir?
Alors en termes de conviction stratégique, on ne peut pas vraiment, on ne peut pas vraiment dire, on peut pas vraiment dire qu'il en est émise, puisque la majeure partie de ses propos sur la situation internationale sont surtout des constats. On est vraiment sur des constats extrêmement pessimistes, sur l'isolement de la France, sur le fait que le pouvoir politique soit instable et incapable de s'orienter sur une stratégie efficace. Il a des réflexions sur les alliés potentiels. Il doute des alliés de l'Est susceptibles de prendre l'Allemagne à revers, car il sait que notre outil est défensif et donc incapable d'agir de concert avec ces pays ou de les secourir efficacement en cas d'agression allemande. Il pense ses convictions qui ne sont pas du tout, séduites par le fascisme, mais des positions extrêmement conservatrices pourraient à un moment donné lui avoir fait songer à réfléchir à une alliance avec l'Italie, par exemple de Mussolini, mais de toute façon il est bien trop prudent. Pétain, c'est la prudence, comme vis-à-vis de la cagoule ou d'autres dossiers de ce type. Il y a certainement eu des pensées intimes, mais en termes d'expression, pas réellement. Et encore une fois, sa correspondance, ses conversations, ses interventions font toujours plutôt figure de constat extrêmement pessimiste, mais pas vraiment de vision stratégique très portée. En 14-18, on en a quelques-unes, mais on peut pas vraiment parler d'une vision stratégique chez le maréchal Pétain dans l'entre-deux-guerres, du moins pas à mon sens.
Effectivement, une prudence qui peut être une vertu, mais qui, lorsqu'elle est développée à l'extrême, eh bien, entrave l'action et
oui,
devient néfaste pour le chef. Eh bien, merci beaucoup d'avoir évoqué pour conflit ce parcours militaire de Philippe Pétain. Je rappelle votre ouvrage, Monsieur le Maréchal, le parcours militaire de Philippe Pétain 1878-1939, qui est paru aux éditions de l'École de guerre. Vous pouvez retrouver toutes les références sur le site internet de Conflit. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque et avec un dossier qui est consacré à l'Amérique latine. Et puis également d'autres émissions donc sur la Deuxième Guerre mondiale, sur 1940, sur notre série de podcasts.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.